Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Artry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Napoléon de Jean Tullard » est un essai historique de synthèse publié chez Perrin dans la collection Vérité et Légende. L'ouvrage se distingue par une volonté claire de démêler les faits établis des récits construits autour de Napoléon Bonaparte, figure centrale de l'histoire française et européenne. Plutôt que de proposer une biographie continue ou une célébration de l'empereur, Tullard organise son analyse autour de questions débattues depuis longtemps par les historiens et le grand public. Le livre examine le rôle politique et militaire de Napoléon, la nature de son pouvoir, son rapport aux guerres, à l'esclavage, à la religion, à la propagande et à sa propre légende. L'écriture vise un large lectorat, avec une ambition pédagogique assumée. L'ouvrage fonctionne ainsi comme une porte d'entrée critique vers le monde napoléonien, tout en conservant la densité d'un travail d'historien spécialiste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, distinguer le Napoléon historique du Napoléon légendaire. Le cœur du livre consiste à séparer les faits vérifiables des interprétations accumulées par deux siècles de mémoire politique, littéraire et idéologique. Jean Tullard ne cherche pas seulement à raconter Napoléon, mais à montrer comment sa figure a été recouverte de récits contradictoires, tantôt héroïques, tantôt hostiles. Cette méthode est essentielle parce que Napoléon est un personnage qui a constamment servi de support à des usages contemporains, qu'ils soient politiques, mémoriels ou scolaires. Le livre montre donc que comprendre Napoléon suppose aussi de comprendre la fabrication de son image. Cette approche donne au lecteur des repères pour lire les débats sans se laisser enfermer dans une admiration automatique ni dans une condamnation globale. Tullard met ainsi en avant une démarche d'histoire critique fondée sur le tri des légendes, la prudence devant les formules toutes faites et l'attention au contexte qui transforme un fait en mythe. Deuxièmement, relire le consulat et l'empire comme des systèmes de pouvoir. L'ouvrage ne traite pas Napoléon seulement comme un chef de guerre, mais comme le fondateur d'un ordre politique inédit issu de la Révolution. Tullard insiste sur la construction d'un pouvoir personnel capable d'organiser l'État, d'administrer les élites, de stabiliser les institutions et de consolider les acquis de 1789, tout en rétablissant une forte concentration de l'autorité. Cette perspective éclaire le consulat et l'empire comme des régimes de gouvernement avant d'être des aventures militaires. Le lecteur comprend alors que la réussite napoléonienne repose autant sur la gestion intérieure que sur les victoires extérieures. En examinant les mécanismes du pouvoir, le livre éclaire la relation entre centralisation, propagande, fidélité administrative et contrôle politique. Cette lecture est utile parce qu'elle évite de réduire Napoléon à ses batailles et remet au premier plan la question décisive de la construction étatique, souvent plus durable que les campagnes militaires elles-mêmes. Troisièmement, les guerres napoléoniennes, responsabilité, coalition et limites stratégiques. Tullard propose une lecture nuancée des guerres napoléoniennes, en refusant les explications trop simples qui feraient de Napoléon la seule cause de tous les conflits. L'ouvrage rappelle que les coalitions européennes, en particulier britanniques et russes selon les contextes, jouent un rôle majeur dans l'enchaînement des guerres, mais cette mise en perspective ne transforme pas Napoléon en acteur passif. Au contraire, elle permet de comprendre comment commence son ambition. Son système de domination continentale et sa confiance croissante dans la force militaire ont alimenté une spirale destructrice. Le livre souligne aussi les limites de son art de la guerre, notamment lorsque le conflit se transforme en guerre d'attrition, en guerre espagnole ou en affrontement à grande échelle contre des coalitions durcies. Cette analyse intéresse le lecteur parce qu'elle relie stratégie, logistique, diplomatie et coût humain. Elle montre que la grandeur militaire de Napoléon ne peut être séparée des conditions qui ont fini par rendre sa puissance vulnérable. Quatrièmement, esclavage, religion et questions morales autour du pouvoir napoléonien. Un apport important du livre est de replacer Napoléon au centre des débats moraux et politiques qui traversent encore l'histoire française. Tullard aborde notamment la réintroduction de l'esclavage en 1802, sujet devenu central dans les évaluations contemporaines de son règne. Il examine également son rapport à la religion, élément capital de la pacification intérieure et de la légitimation du pouvoir. Ces thèmes ne sont pas traités comme des annexes morales, mais comme des révélateurs de la logique politique napoléonienne. Le lecteur voit ainsi comment Napoléon arbitre entre héritage révolutionnaire, ordre social, impératifs impériaux et pragmatisme d'État. Le livre ne cherche pas à excuser ni à condamner par principe, mais à montrer que ses décisions ont des conséquences historiques profondes. Cette mise en contexte est précieuse car elle aide à comprendre pourquoi Napoléon demeure une figure si conflictuelle. Il incarne à la fois la modernisation de l'État et de choix, politique lourdement contestable. En dernier lieu, comprendre la fabrication durable du mythe napoléonien au-delà de l'homme et du règne. Le livre s'intéresse à la survie de Napoléon dans les mémoires françaises et européennes. Tullard explique que son image a été continuellement réactivée, utilisée, discutée et réinterprétée selon les périodes, les régimes et les sensibilités politiques. Cette dimension mémorielle est importante parce qu'elle montre que Napoléon n'est pas seulement un sujet d'histoire, mais aussi un objet de culture politique. Le lecteur comprend comment se construit un héros national, comment il peut devenir simultanément un modèle d'admiration et une cible de critique, et pourquoi certaines questions reviennent sans cesse, de Sainte-Hélène au débat contemporain sur les commémorations. En étudiant cette persistance du mythe, le livre offre une leçon plus large sur la mémoire collective. Une figure historique peut survivre moins par la précision des faits que par la force des récits qui les entourent. C'est ce qui rend Napoléon particulièrement durable dans les débats publics. En conclusion, ce livre conviendra d'abord à ceux qui cherchent une introduction solide, claire et critique à Napoléon, sans se perdre dans les détails d'un traité académique ni dans le romanesque d'une biographie trop célébratrice. Les lecteurs débutants y trouveront des repères essentiels pour comprendre le consulat, l'empire, les guerres, la propagande et les grandes controverses historiographiques. Les lecteurs déjà familiers du sujet apprécieront surtout la mise en ordre des débats et la capacité de Tullard à présenter les questions discutées sans simplifier à l'excès. L'intérêt principal de l'ouvrage est sa position intermédiaire entre synthèse accessible et expertise historique. Il se distingue des biographies plus narratives par son organisation en problème et des essais polémiques par son refus de l'énoncé définitif. Cette méthode en fait un ouvrage utile pour apprendre, réviser ou confronter ses certitudes. Dans un champ saturé de livres sur Napoléon, Tullard conserve une vraie singularité. Il ne cherche pas à produire un nouveau mythe, mais à examiner avec rigueur ceux qui existent déjà. Si vous souhaitez soutenir Jean Tullard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.